Le génie artistique peut consister à faire accepter l'inacceptable.
Je crois que le créateur ne doit absolument pas se soucier de l'opinion du plus grand nombre, ni pour la mépriser, ni pour la rechercher. The dream.
L'art contemporain, c'est... c'est de la merde.
Si on veut faire quelque chose de différent, il faut s'attendre à ne pas rencontrer la compréhension tout de suite.
Artomatique, l'émission d'art qui te concerne.
Bon, peu importe, c'est une pièce en
donc, ouais, tu voudrais voir peut-être autre chose, l'atelier, comme tu
ouais.
dis ou...
Ouais, carrément.
L'atelier, c'est le bordel, mon atelier. C'est un atelier.
Ouais, c'est super. C'est bien rangé, quand même.
Oui, on peut faire ça comme ça.
Donc là, tu découpes. Ah, t'as un... système pour récupérer la sciure de bois.
Ouais, j'ai un aspirateur. Ça, en fait, c'est un combiné. Voilà, je sais pas si ça te parle, le combiné. Un truc qui fait différentes opérations avec lesquelles je peux scier, raboter, dégauchir, voilà, pour avoir des bois bien propres. Mais quand je sculpte, ça passe jamais avec cette machine-là, quoi. Je sculpte, en général, je pars de bois ronds, de troncs, de morceaux de troncs, quoi, ni plus ni moins. Et quand je sculpte, alors soit quand je suis en situation de création pure, je sculpte qu'à la main, parce que là, j'ai pas d'impératif de temps, il n'y a pas de commande. Et quand, par exemple, j'ai fait des pièces pour des commandes, là, par contre, je me permets de dégrossir à la machine, quoi. J'ai une meuleuse avec un disque spécial. Tu peux voir peut-être là-bas le disque avec trois dents. Et qui permet de rentrer dans le bois et de tailler beaucoup, beaucoup plus vite, quoi. Mais par contre, c'est frustrant parce qu'il n'y a pas le côté méditatif, justement, des coups de maillet, des choses comme ça, qui intériorise beaucoup le côté très primal, quoi.
Il est où ton maillet ?
La maillotche de sculpture. Où est-ce qu'elle est, la maillotche ?
Elle doit être là.
Voilà. Est-ce que tu connais ce genre d'outils ?
Non.
C'est des outils exprès pour sculpter. Parce qu'en fait, si j'avais un maillet, les maillets en bois, mais j'en ai pas de maillet de menuisier, en gros, ça correspond à ça. Donc, tu as toujours une face pour pouvoir... Si tu sculptes que ça, tu peux passer à côté. Alors qu'avec ça, on peut jamais passer à côté. Je peux taper dans tous les sens. La frappe, elle, tu vois comme il n'y a pas d'angle autour.
C'est une maillotche.
Voilà, c'est une maillotche de sculpteur.
Ouais. Tu frappes le bois directement ou...
Non, je frappe l'outil.
L'outil.
Les outils, ben voilà, par exemple, un outil droit comme ça,
une gouge.
Voilà, ouais. Je le frappe comme ça, quoi. Ça, c'est vraiment, si je veux dégrossir, je vais tenir la maillotche loin et je tape très fort.
Le fait qu'elle soit cylindrique permet d'orienter ton coude.
Voilà, et à la limite, si je veux faire comme ça,
ah oui.
Sans avoir à tourner la maillotche, contrairement à si j'avais quelque chose avec une panne comme un marteau, où là, j'ai pas besoin de tourner l'outil. Et l'avantage de ça, c'est que quand je veux faire des choses très précises, je tiens la maillotche comme ça et...
Ouais, tu la prends en main complètement, pas voilà. Par le manche.
Ouais, parce qu'avant, à une époque, je sculptais comme ça.
Avec la
paume. Avec la paume de la main, ça se faisait beaucoup.
Ah ouais.
Et un jour, j'ai vu le fils d'un sculpteur très connu, fils Coq, qui était sur un salon, on lui demandait des nouvelles de son père. Et il nous a dit que son père ne pouvait plus sculpter parce que tout ça était mort à l'intérieur de la paume. Parce que pendant 30 ans, il a tapé comme ça, quoi. Et de ce jour-là, je n'ai plus jamais fait. Donc voilà, ça c'est mes différents outils. Tu veux voir un peu les outils que j'ai?
Oui. Ouais.
Je vais les poser là, comme ça tu verras un peu plus. Donc là, les outils, là il y a les ciseaux, ce qui est l'outil de base. Et après, ça c'est tout ce qu'on appelle les outils coudés. C'est-à-dire ça, par exemple, c'est des gouges coudées. Ou là, par contre, c'est des outils sur lesquels je frappe jamais. Parce que le coude est une partie très fragile et je pourrais la casser, quoi. Et ça, par contre, ça permet de faire des creux, style... qui est le plus parlant, peut-être des bols, des choses comme ça, des fonds de bols. Voilà, différents profils de bouge, tu vois, plus ou moins large, avec des pas différents. Et là, ce sont les burins. Les burins, c'est pour faire des entailles en V, pour contourner un dessin de sculpture. Après, il y en a d'autres ici. Voilà, donc ça, c'est plus, c'est les gouges droites. Ça, c'est ce qu'on connaît plus. Là, par contre, c'est des outils sur lesquels je frappe. Voilà, là, encore des ciseaux. Et là, vous allez voir où est-ce qu'il est, mon outil préféré. Je ne sais plus où il est. C'est ce qu'on appelle un fermoir, c'est-à-dire c'est un ciseau, mais où il y a un tranchant de chaque côté. Donc voilà, en gros, les outils manuels que j'ai pour sculpter. Voilà, et ça, c'est la grosse gouge pour faire vraiment du gros dégrossissage. C'est la gouge la plus grosse que j'ai.
Tu vas utiliser des outils spécifiques selon les essences de bois ?
Non. Non, c'est vraiment en fonction de ce que je veux faire sur la pièce. S'il y a vraiment du petit détail, je vais devoir prendre des gouges très, très étroites, par exemple comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une gouge méplate. Tu vois, l'arrondi est à peine marqué. Contrairement à une gouge comme ça, qui est une gouge, ça doit être une numéro 9. Ouais.
Qui est très incurvée.
Voilà.
Au bout.
Parce que les gouges sont numérotées de 3, si je me rappelle bien, de 3 à 9. 9, c'est vraiment un demi-cercle.
Ouais.
Et ça doit être une numéro 3. Je n'arrive pas à voir le numéro dessus, mais voilà. C'est ouais. Des gouges méplates qui sont à peine marquées. Voilà, c'est en fonction de ce que je veux faire dans le bois.
C'est comme tes pinceaux, quoi.
Voilà, oui, tout à fait. Ben c'est un très bon comparatif, je trouve. Oui. Voilà, c'est exactement ça. Si je veux faire du détail, ben je vais prendre un pinceau qui va avoir une pointe très fine. Et si je veux faire du très large, voilà, par exemple, une gouge qui est entre la méplate et la gouge ronde. Ça doit être une numéro 5, je pense. Voilà.
Il y en a une cinquantaine, là.
Il y a 59 outils, je crois, en tout, qu'on m'a donné en plus. Enfin, la plupart. C'était un cadeau fabuleux. Donc voilà pour ce qui est des outils.
Hadouk Trio, le train bleu des savanes. Maroussia pour Artomatique sur Radio Saint-Féréol. Bonjour chers auditeurs de Radio Saint-Féréol, aujourd'hui je suis dans l'atelier de Patrice Ballandreau qui est sculpteur à Rompont en Ardèche et nous allons partir à la découverte de son travail de sculpture sur bois et également de tous les outils et instruments qui lui permettent de réaliser ses œuvres. Bonjour Patrice.
Bonjour Maroussia.
Quand est-ce que tu as commencé à sculpter ?
Oh, j'ai commencé quand j'étais enfant déjà. J'avais un petit opinel quand j'avais 8-9 ans et j'adorais sculpter dans des petits morceaux de bois. Pour moi, je grattais le bois, je n'avais pas la prétention de sculpter, je ne savais même pas que la sculpture existait. Et pour moi, c'était vraiment des moments magiques. D'être là, je pouvais rester des heures à sculpter un petit morceau de bois, à l'écorcer, à le toucher, à le sentir. Voilà, et après, il y a eu des moments d'arrêt pendant l'adolescence, j'ai plus du tout sculpté. Et après, j'ai recommencé à sculpter il y a, je sais pas, peut-être 25 ans à peu près. Voilà, et où là, j'ai pris conscience de ce qu'était la sculpture, que ça nécessitait des outils. Que ça nécessitait des outils peut-être un peu plus spécifiques qu'un simple opinel. Donc j'ai investi dans des outils de base, j'ai rencontré des sculpteurs ou sculptrices qui m'ont expliqué aussi le maniement des outils. Voilà, et puis petit à petit j'ai sculpté. À un moment je me suis dit, ah oui, tiens, pourquoi pas en faire un métier. Et donc après je me suis formé un peu plus professionnellement, et je suis devenu sculpteur professionnel. Voilà, à exposer, j'ai vendu des pièces, j'ai eu des commandes aussi.
Sur quel type de thème ?
Oh, les thèmes sont très variés. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est en fait ne pas avoir de thème. C'est-à-dire, dans ma tête, c'est assez fulgurant, la créativité. Où je peux me réveiller en pleine nuit et il y a une pièce une sculpture qui s'est fabriquée pendant la nuit dans ma tête et qui tourne et je la dessine un peu et puis après je vais la sculpter. Après les thèmes, c'est plus en situation de commande où on m'a demandé par exemple des végétaux, des champignons, on m'a demandé des animaux ou des bas-reliefs ça c'était un ébéniste il y a quelques années qui m'a fait une commande pour des portes, pour des panneaux de portes, donc là des bas-reliefs pour une famille à la fois qu'il y avait des origines royales, donc il fallait une fleur de lys, à la fois qu'il y avait une origine, je ne sais plus quelle origine, mais pas royale, où il fallait aussi marier la fleur de lys avec une coquille Saint-Jacques, avec d'autres végétaux. Voilà le genre de thème. Et ça, par exemple, l'exemple de cette porte, pour moi, c'était un vrai challenge, parce que, naturellement, je suis beaucoup plus attiré par la ronde bosse, c'est-à-dire une pièce qu'on peut tourner à 360 degrés, voilà, ce qu'on appelle vulgairement des statues. Et là, en l'occurrence, c'était du bas-relief, donc où il faut donner une impression de relief avec 1 cm de profondeur. Et pour moi, au début, c'était le challenge, me dire, mais comment je vais y arriver? Et j'y suis arrivé, l'ébéniste a adoré mon travail, les clients ont aussi adoré mon travail. Et puis je me suis dit, ah ouais, ça m'a réconcilié justement avec le bas-relief, justement. Même si ma préférence va quand même toujours vers la ronde bosse.
C'est très complexe, le bas-relief. On ne se rend pas forcément compte quand on le voit, mais c'est techniquement très très difficile à réussir.
Ouais. Et oui, parce que c'est à la fois de la sculpture, à la fois de la gravure, à la fois du dessin, et c'est entre guillemets de la triche, parce qu'il faut donner une impression de profondeur alors qu'il n'y en a pas. Donc avec des lignes de perspective très fuyantes, voilà, c'est...
Oui.
Mais ça a un côté en même temps très ludique,
oui.
D'arriver à donner cette impression de profondeur, c'est une espèce de trompe-l'œil amélioré.
Ouais, je me rappelle musée d'art de Catalogne à Barcelone, dans lequel j'avais vu une énorme pièce circulaire qui devait représenter...
un visage de Christ ou quelque chose, voilà, je ne sais plus exactement le thème. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'ils avaient extrait cette pièce-là du fronton d'une église et ils l'avaient posée à hauteur d'œil, enfin, qu'on puisse la regarder. Et là, on se rendait vraiment compte qu'il n'y avait rien de symétrique ou de droit par rapport à ce qu'on pourrait attendre quand on est face à quelque chose, parce que l'objet avait été réalisé pour être vu de manière parfaite et droite à plusieurs mètres de hauteur, et quand il est en face de nous là, c'est je vais dire, c'est complètement tordu. Il faut arriver à projeter ce que l'œil va percevoir au final. C'est vraiment un exercice particulier.
C'est justement par rapport à ce que tu viens de dire, c'est le grand jeu, par exemple, des personnes qui font beaucoup de statuaire pour justement pour les monuments, les églises, les choses comme ça, où il faut déformer justement pour qu'une vision lointaine et souvent en contre-plongée puisse voir ça de façon
Et plus harmonieuse. On avait l'impression qu'une statue, enfin la tête va être plus grosse en réel si on est en face, parce que d'en bas, on a l'impression que le personnage est équilibré au niveau des proportions.
Voilà.
Sinon, la tête paraîtrait toute petite. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont des secrets.
et dans ce thème-là, poursuivre dans ce fil-là, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est par exemple les sculptures. Alors, c'est plus de la sculpture sur pierre. Moi, je ne suis pas du tout sculpteur sur pierre. Mais c'est par exemple les chapiteaux en art roman, où on disait au sculpteur, voilà, vous devez représenter telle scène. Et ça représentait un morceau sur une face du chapiteau, mais ça rentrait pas tout. Et ben, il prenait le virage à 90 degrés, et puis il continuait à raconter l'histoire. Donc il y a des personnages qui sont pile sur le fil droit, sur le fil de l'arête, déformés, étirés. Mais c'est pas grave, ça raconte l'histoire. Mmh. Et j'aime beaucoup cette façon de sculpter, parce que ça raconte une belle histoire sur la liberté qu'on peut prendre en création, justement.
Ah, les bas-reliefs dans la roman, c'est fabuleux.
Ouais.
Donc, c'est de la pierre. Et là, on est dans le bois.
Voilà.
Alors, on va voir quelques-unes de tes œuvres.
Par exemple, ce bâton. C'est un bâton. Alors là, c'était un peu un défi à sculpter aussi, parce que... Alors, ça représente un roi très stylisé avec sa couronne. Et là, c'est des poissons. Ce sont des poissons. Et c'était un défi parce que le bois, c'est du buis. Ça doit être le bois indigène qui est le plus dur, je pense, à sculpter. Mais qui, en même temps, voilà, une fois poli, prend un poli miroir, un poli quasiment comme un minéral, justement, tellement c'est dur. Et c'est un sceptre, en fait, c'était un sceptre de roi. Parce que j'avais fait une expo, enfin, nous avions fait une expo collective quand j'habitais en Haute-Loire. On était, je sais pas, 25 artistes à peu près. Exposé dans un lieu assez improbable, un château en ruine en haut d'une falaise. Et il nous fallait trouver un thème commun. Le thème commun, c'était, voilà, on était à marée basse, alors qu'on était à 900 mètres d'altitude en Haute-Loire. Et on était à marée basse et on est dans un village de pêcheurs. Donc chacun, chacune avait fait des choses en lien avec ça. Et moi, ce sceptre, c'était le roi du village qui agitait ce sceptre pour invoquer les dieux de la pêche, pour que la pêche soit bonne quand on reviendrait la marée haute, justement. Donc voilà le lien avec les poissons. Voilà. Et le défi, c'était aussi, bien sûr, sculpter. C'est le défi chez les sculpteurs, un peu comme chez les tourneurs, il y a les boules de Shanghai. Chez les sculpteurs, c'est de faire des chaînes. Mmh. Où, sans aucun collage, on fait une chaîne dans du bois, juste en taillant les maillons. Mmh. Voilà. C'est un défi pas très difficile, mais qui est toujours assez ludique, quoi.
Ça représente presque un visage, vu de face.
Oui. Ouais.
S'il avait les poissons accrochés dans ce qui pourrait être le nez. Et là.
Oui, un peu comme un piercing, un peu comme si c'était un piercing entre les narines. Voilà, ce sont les poissons. Et le roi est croisé un peu avec un animal marin improbable, avec cette grande queue.
Comme une anguille.
Voilà.
Ouais. Tu as eu de la visite ?
Quelle autre pièce ? L'oiseau ici. Ça représente une grue. Ça, c'était une situation de commande pendant un stage, voilà. Donc c'est une grue qui couvre ses œufs et qui là est en train de les arranger avec son bec dans le nid.
Elle fait à peu près 60
cm. 70 cm de haut.
Ouais.
Et elle vient d'un tronc de châtaignier. C'était vraiment un tronc. C'est pour ça qu'il y a des fentes ici. Et c'est une sculpture qui est, entre guillemets, creuse. C'est-à-dire, j'ai creusé entre le cou de l'oiseau, les pattes. Parce que j'aime beaucoup les sculptures qui partent du massif, mais qui deviennent très légères. Avec plein de creux, j'aime beaucoup les creux, les courbes, voilà.
Et parce qu'elle a la tête qui revient entre les pattes.
Voilà, ouais. Et ce que j'aime beaucoup, par exemple, tout à l'heure, c'était du buis. Là, c'est du châtaignier. Après, on va voir, par exemple, là, de l'acacia. J'aime beaucoup aussi varier les essences de bois. Même s'il y a des essences qui, style l'acacia ou châtaignier, qui sont des essences très très difficiles à sculpter. Mais ça voilà, ça c'est pareil, c'est sculpté dans un... C'est un ami abatteur, enfin un bûcheron qui m'a donné ça.
Waouh.
C'est une chute d'acacia. Et là c'était pareil, c'était pour une expo collective, toujours quand j'étais en Haute-Loire, où il y a un lieu qui s'appelle... Il y a un village qui s'appelle le Boucher Saint-Nicolas, qui n'est pas très loin du Puy-en-Velay. Et à côté, il y a un lac qui est dans un cratère d'ancien volcan. Et ce lac s'appelle le lac du Boucher. Et on l'appelle aussi l'œil de la mer, parce que c'est un lac qui est très très profond, qui doit faire peut-être une centaine de mètres de profond, et qui a vraiment la couleur de l'eau de mer. Et donc, on s'est retrouvé à plusieurs artistes en se disant, voilà, on va faire des sculptures, où il y avait aussi une photographe, il y avait une plasticienne, il y avait des musiciens, qui seraient en lien avec la mer, avec ce lac. Et donc moi j'ai sculpté, alors là c'est cassé malheureusement au fil des déménagements, mais c'était de l'eau qui coule quoi. Et le plus beau compliment qu'on m'a fait par rapport à cette sculpture, c'était une sculpture qui était en extérieur. Et les personnes me demandaient qu'est-ce que ça représente, moi je dis toujours, ben, c'est ce que vous voyez. Et il y a une petite fille de 4-5 ans qui se balade avec sa maman, qui dit « Maman, maman, t'as vu, on dirait de l'eau qui coule ». Et là je me suis dit « T'as tout compris ?» Voilà. Ça, là. Ah ben si, c'est celle-là que je cherchais. Non, c'est pas celle-là que je cherchais. Ça, c'est une sculpture. Alors, c'est une ébauche de sculpture. Hein. J'ai parfois des sculptures qui restent en attente pendant des années. Celle-là, j'ai dû la commencer il y a 4 ans. C'est dans un tronc de pommier. Alors, ça, c'est un bois relativement tendre qui se sculpte très très bien. Et qui va représenter. Alors, c'est suite à une visite au Muséum d'histoire naturelle il y a quelques années, où il y avait une expo sur les océans, et où il y avait des petites vidéos sur les vers marins, des vers qui font plusieurs mètres de long, qui vivent mais vraiment au fond de l'océan, là où tout est noir. Et moi, je suis très attiré par tout ce qui est chorégraphie et danse, et ces vers, quand ils nagent, ils dansent. C'est-à-dire ils ont un corps cylindrique, et autour, ils ont une espèce de nageoire de chaque côté qui fait toute la longueur du corps, comme une espèce de dentelle. Et je trouvais ça tellement fabuleux. Donc voilà, au final, cette pièce-là, on voit le corps du ver qui commence à apparaître. Voilà. Et après, je vais affiner toutes ces parties pour faire ces ailes très légères. Malheureusement, dans du bois, je ne pourrais pas affiner autant qu'en vrai, parce que le bois est quand même un matériau assez fragile. Donc voilà. Alors, c'est dommage que je ne retrouve pas l'autre. Non, ça n'a aucun intérêt. Si, pourtant.
Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Dans le coin ?
Voilà, mais ça, c'est aussi une sculpture en buis qui va représenter. Alors, moi, je suis fasciné par tout ce qui est serpent, tous ces animaux, les vers. Voilà, c'est un animal capable de ramper, de s'enrouler, parce que c'est très esthétique.
Ah, c'est magnifique.
Donc, voilà, et en plus, c'est une section assez conséquente parce que. Ce buis a failli passer comme bois de feu, c'est de la racine de buis en fait. C'était dans un parc public à Volvic, dans le Puy-de-Dôme. Et j'ai demandé aux employés municipaux ce qu'ils allaient en faire. Ils m'ont dit, tu prends tout ce que tu veux. Donc j'en ai encore dans ma réserve. J'ai une réserve de bois qu'on pourra aller voir si tu veux. Après.
Et il va être comment, à la fin?
Je ne sais pas encore.
Tu ne sais pas encore ce qui va se passer dans cette histoire?
Non, parce que quand je crée, j'ai des espèces de fulgurances, mais j'allais dire le problème, c'est peut-être pas un problème, mais ça s'arrête jamais dans ma tête. Et même quand je suis en train de sculpter une pièce, il y a ce que je fais physiquement, enfin concrètement dans la pièce, mais dans ma tête, la pièce, elle avance plus vite que ce que je sculpte. Et des fois, elle se déforme. Elle se déforme pas, mais...
Elle prend une autre direction.
Voilà, exactement. Une autre direction. Et Et c'est ça aussi, j'aime bien quand j'ai des pièces, quand je suis hors situation de commande, parce qu'en situation de commande, il y a une limite de livraison de la pièce, et voilà, ça doit correspondre aux desiderata des clients ou des clientes. Mais quand je suis comme ça en création, j'aime bien, comme l'autre tout à l'heure dans le tronc de pommier que j'ai commencé il y a 4 ans, c'est de laisser ça en gestation. Et dans ma tête, petit à petit, ça va se calmer un peu. Et je vais partir peut-être sur un autre chemin. Mais il y aura quand même la base de ce que j'ai commencé à sculpter. Par exemple, c'est cette espèce d'enroulement. Hein. Mais qui, au final, sera peut-être pas du tout la première image qu'il y avait eu dans ma première fulgurance, on va dire.
Celle qui t'a réveillé à 4h du matin.
Voilà, voilà, exactement. Ouais.
L'idée de l'eau, de la mer, c'est quelque chose qui revient souvent.
Ah oui, ouais. Alors que j'ai peur de l'eau.
Tu as peur de l'eau?
Ah oui, oui, alors que j'ai peur de l'eau. C'est peut-être une façon d'apprivoiser l'eau, ou que l'eau m'apprivoise, je ne sais pas dans quel sens. Mais oui, oui, j'ai très peur de l'eau. Quoi.
Tu ne vas pas nager?
J'aime pas spécialement nager. En piscine, encore, ça va encore, mais si je ne vois plus mes pieds, pour moi, ça devient terrible. Mmh. Et si je ne vois pas le fond, ça tourne à l'angoisse.
Ouais.
Donc non, je vais pas nager... Et... L'été, quand il fait chaud, c'est la dernière idée qui me viendrait d'aller me rafraîchir dans un cours d'eau. Mais oui, 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 j'ai une attirance quand même, oui, pour ce qui représente la mer, l'eau. Parce que, en même temps, pour moi, c'est une espèce de... C'est le summum de la liberté. Quand je vois nager des dauphins, je suis fasciné, par exemple, par ce qui est les dauphins, les baleines, les orques... J'ai un peu le même degré de fascination pour ces animaux que pour les rapaces, qu'ils soient diurnes ou nocturnes. Quoi.
Quand tu me parles de ces vers qui arpentent les fonds marins, là où on ne voit certainement plus ses pieds ni rien, et qui ont des ailes, c'est ça en fait.
Oui, ben, oui, oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et je trouve ça fascinant, et quand je voyais nager ces animaux, par exemple, je suis aussi fasciné par les méduses, toujours le rapport à la danse. Il y a une telle liberté, et très rapidement, quand je regarde des images de ces animaux-là, j'en arrive à oublier qu'ils sont dans l'eau, et ça pourrait être dans l'air, ça peut être c'est un animal qui nage, qui vole, je sais pas. Et c'est ce qui me fascine, voilà, le rapport aussi avec les rapaces, même les oiseaux en général, mais particulièrement les rapaces. Ouais.
Merci beaucoup, Patrice.
Merci, Marouxé.
Vous pourrez retrouver cette émission et les interviews sur le site de Radio Saint-Ferréol, à la page des émissions culturelles, à la page de Artomatique plus précisément. Et bien sûr, cela devient un rituel, les musiques que vous entendez au cours de l'émission sont la réponse à la question « Qu'est-ce que tu écoutes quand tu travailles ?» De la même manière, sur la page de l'émission, vous trouverez un visuel d'une œuvre dont on a parlé pendant l'émission. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Maroussia pour l'émission Artomatique sur Radio Saint-Ferréol. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Au revoir.